Tof, quelqu'un qui est malade, on doit prier debout. Maintenant, debout, c'est-à-dire totalement debout, même pas en se s'accoudant, en s'appuyant sur quelque chose d'autre. Attention, ça peut arriver, le Shahar Tzibour, très souvent, il est debout, il a une table haute, des fois il peut s'appuyer dessus, c'est interdit. Alors, si quelqu'un est malade, s'il est vieux, s'il a mal aux pieds, alors il peut chatatrak, dans des cas pareils, il peut s'appuyer. Quelqu'un de malade, il peut s'appuyer, s'il ne peut même pas se lever, il peut faire la prière assis ou même couché. Couché, Maran dira néanmoins sur le côté. Je n'ai pas vu quelqu'un qui autorisait à faire la prière couché sur le dos.
Et assis, couché, non.
Alors, tout le reste, pour quelqu'un qui est faible et qui ne peut pas faire autrement, on va autoriser. Mais vraiment, il ne faut pas jouer avec ça, quoi. Non, on doit faire la prière debout. Et ils écrivent dans le livre ici que quelqu'un qui, si possible, il peut prier debout au moins la première bracha et après s'asseoir. Ou encore mieux, s'il peut s'asseoir en chaque bracha, il fait une bracha debout, après il se rassied, il respire un peu, il se relève, il fait encore une bracha, ceci est valable. Bon, je ne sais pas, quand on est fatigué, c'est plus dur de se lever et de se rasseoir. Bon, en fonction de cela, c'est faire le maximum qu'on puisse faire. Si vraiment on ne peut rien faire, alors sur le côté, dans le lit, c'est valable.
Tenir quelque chose, genre ici les deux poteaux étaient sur le côté, c'est pas un problème.
Quand tu pries, pourquoi pour te sentir à l'aise.
Ouais, je sais pas, c'est
dans l'air. Alors on avait vu hier que quand tu pries, tu vas te sentir devant le roi. Le mieux, l'idéal, c'est comme on a montré hier, mettre les mains, main gauche sur le cœur, main droite sur la main gauche. Quand la main gauche c'est les dinim, main droite c'est rahamim, donc il y a plus de... La main gauche, elle devra prier ainsi, comme ça, sur le cœur, avec les pouces à l'intérieur. Alors, quand tu pries comme ça, hein, c'est un peu relax, d'accord? C'est pas interdit, c'est-à-dire que la prière, elle est valable. Mais c'est pas... Il faut être comme un serviteur devant un esclave, devant son maître.
Pourquoi on se balance, là?
Pardon?
Pourquoi on se balance avant la prière? Parce que, pendant un moment,
normalement, on ne doit pas se balancer. Alors, c'est marqué qu'il faut être comme un serviteur devant le roi. Quand il parle au roi, il ne fait pas comme ça. Il est complètement immobile.
Mais si on ferme les yeux, parfois, quand on ferme les yeux et qu'on est immobile,
on perd l'équilibre.
Ouais, on perd l'équilibre. Ça arrive parfois, on se concentre dans la fila et parfois on sent comme ça.
Tu te remets bien, ça va, c'est pas grave. Mais l'essentiel étant quand même dans la prière, qu'elle soit une prière, ça veut dire qu'il y ait de la kavana. Kavana, ça veut dire qu'il y ait de l'intention. Alors, si quelqu'un maintenant il sent qu'il pourra mieux prier en se balançant, alors on tourne de balancer. Il y a un piège là-dedans. Parce que des fois, on a l'impression que le fait de se balancer comme ça, hein, ça donne l'impression qu'on est en train de prier. Et en fait, tu fais rien.
Non, fais plus attention à comment on se balance.
Tu as l'impression que tu fais comme ça, tu as l'impression que tu es en train de prier. C'est une sorte de...
Une filation d'attention, elle n'a aucune valeur. Elle a quand même une petite valeur.
Elle a une valeur. Preuve en est qu'on ne va pas dire à une personne qui a prié sans intention de recommencer la prière. À moins qu'il n'ait pas eu du tout l'intention dans la première bracha de la Amida. Là, normalement, il faut refaire.
Attends, faut penser quoi la première bracha ?
Les mots ?
Toute la chaîne, problème.
Oui, quelqu'un maintenant. Non, la première bracha est plus importante que le reste. Que si quelqu'un n'a pas pensé au moins, Baruchat Hashem, Elokeinu Veloke Avotenu, Baruchat Hashem Magen Abraham, on va mentionner encore plus, mais qu'elle dit que le début et la fin de cette bracha, t'as pas pensé ça, alors c'est pas ok. Mais la prière, c'est une prière. L'essentiel, c'est d'avoir la kavana, de penser ce qu'on dit, de penser qu'on est devant Hachem. C'est du travail. C'est marqué dans la Shema. Même Shema, elle sont à Shem Salat Remayom, le Ahavat Hachem Elokechem, ou le Avdo, le servir. De tout votre cœur. Avoda Shebalev, un service, un travail, Avoda c'est un travail du cœur. C'est quoi le travail du cœur? La prière. Il y a un effort à faire, un effort de concentration, un effort de ne pas penser à autre chose, un effort après de mettre se mettre en situation de supplication à Hachem, comme un pauvre qui n'a rien, comme un pauvre à la porte, c'est marqué. Toc, toc, toc. D'accord? Et ça marche. Il n'y a aucune chose au monde qui amène un flux plus grand que la prière. Surtout ces jours où Hachem, il ouvre le... J'ai l'impression que Hachem, il ouvre, là, c'est dans les portails d'en haut pour amener son peuple pour un Géoula. Il faut se défoncer en prière. J'ai demandé à Rav Bergel, je lui ai dit, c'est bientôt le Géoula, en quoi il faut s'enfoncer? Il m'a dit, prière. Rav Bergel, ouais, notre Rav Bergel à nous, ouais. Ok.
Comment concilier le fait que des fois on nous dit ouais vous êtes les enfants d'un cadeau de vous parler comme un père ou dire rien raconter même votre journée ou...
Bon, c'est la question de Jérémie hier,
ouais,
et là, alors j'ai lu moi il y a quelques jours dans Reshit Chochma qui est le livre de Moussar numéro 1 écrit il y a 500 ans par Rabbi Yehuda Vidash de Tzfat, et que la seule chose au monde qu'on peut à la fois aimer et craindre c'est Hachem. Les autres personnes, un père, on peut avoir un peu de crainte et de l'amour. Une mère aussi. Elle sera beaucoup moins forte que Hachem, parce qu'Hachem, il faut effectivement avoir une crainte de lui. Une crainte, c'est de quoi une crainte? Ouais, d'après ce qui est marqué, vraiment une vraie crainte. Je ne sais pas si nous sommes du tout au niveau d'arriver à cela. Mais normalement, en ayant conscience de l'infini d'Hachem, de sa grandeur incroyable, de son plein pouvoir, on devait être plein de craintes, parce qu'on est vraiment un petit moustique par rapport à cela. Aujourd'hui, on est tellement orgueilleux, on prend tellement de place, on n'avait pas imaginé qu'à se faire petit face à Hachem. Mais normalement, ça doit être ça. Comme j'ai dit hier à Jérémie, tu te mets au-delà de la tour Eiffel, tu regardes, tu as déjà le vertige. Et c'est rien, c'est 400 mètres. C'est rien. Hachem, c'est infini. On doit être pris d'un vertige terrible. Imagine que tu es dans une navette spatiale entre Jupiter et Mercure, tout seul. Il n'y a rien. Personne a des... C'est 30 ans de voyage pour revenir sur la Terre. Il n'y a rien. Il faut du courage. Pourquoi il faut du courage? Ça fait pas peur. Bah, t'es dans l'infini. T'es même pas dans l'infini. Il y a Mercure ici, il y a Saturne. T'es encore sur le chronomètre un peu. Imagine que tu es vraiment à 10 milliards d'années de lumière, il n'y a vraiment rien du tout. Tu meurs sur place, de peur, tu es tout seul.
Il y a une différence entre la peur de l'infini et être esclave.
Mais Hachem, maintenant, Hachem en plus il t'a créé, il t'a demandé de le servir. Et tout ce que tu as, tu le dois à lui. Tout. Hein? Si on avait la conscience d'Hachem, on ne pourrait même pas lui parler. Alors on est inconscient. Le problème c'est qu'on est... Je me demande, sois un peu moins inconscient quand tu me parles. C'est un travail, c'est pas pour rien que les Chassidim Rishonim restaient une heure avant la prière à se concentrer, se remplir. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette heure-là? Ils se remplissaient d'amour et de crainte pour Hachem. Il y a un travail d'amour, réveiller l'amour pour Hachem et réveiller la crainte. Quand on lit les Shem Yehoud, alors les gens lisent, ok, c'est du télégraphe. Qu'est-ce qu'on dit? Les Shemirud, je viens maintenant pour le nom, pour, afin de faire une union entre Kuchabechou et Shrente, littéralement, Saint béni soit-il, avec Sajrina, pour unir Yud, les lettres Yud et puis Hei avec les lettres Vav et puis Hei, Bedechelou, Vechemou, Vechemou, Betrilou. Betrilou avec crainte, Vechemou avec amour. Vechemou avec amour, Betrilou avec crainte. Shemirud Israël, au nom de tout Israël, je viens faire un mitzvah maintenant de Shachrit, Minra, Tchilin, Talit, etc. C'est pour nous rappeler un peu qu'on doit avoir de la crainte et de l'amour et de l'amour et de la crainte. C'est censé ne pas être des mots en l'air. Quand on prie, dans les 10 jours de pénitence, on dit Avinu Malkeinu. Avinu, notre Père. Malkeinu, notre Maître, notre Roi. Roi, c'est crainte. Père, c'est amour. Et les deux vont ensemble. Il se peut que tu passes très vite d'un à l'autre. Mais les deux doivent exister. Comme je dis hier, s'il y a trop d'amour et pas de crainte, alors on arrive à une, proximité grossière d'Hachem. Hachem veut qu'on se rappelle qu'il est le roi. Certaines distances. Pas ton copain. D'où la nécessité maintenant quand on prie. On va voir toutes ces lois-là qui nous obligent. Pourquoi être debout? Pourquoi pas m'appuyer? Toutes ces choses-là. Parce que nous sommes vraiment devant Hachem.
On doit quand même plus s'aimer que craindre.
C'est pas marqué.
On voit plus d'amour que de craindre dans la Torah.
Hein?
On voit plus d'amour que de craindre dans la Torah.
Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le discours d'amour, il passe mieux. Moi aussi, personnellement, d'accord, ça me touche plus que la crainte. Mais dans les livres, le Rachid Chochma, il commence par d'abord la crainte. Rachid Chochma, il rattache. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et ils disent que par la crainte seulement, on peut arriver après à l'amour.
C'est l'inverse aujourd'hui. On dit un faiseur de chouva, des esclaves,
ouais. Ouais. Je suis d'accord.
C'est quoi la crainte? C'est un respect ou c'est comme une peur?
C'est un respect. Mais après qu'il devienne conscience de la grandeur de l'Hachem, et quand on a une grande, grande conscience de la grandeur de l'Hachem, alors ça nous paralyse normalement. Mais c'est des niveaux que je ne connais pas, d'accord? Racontez qu'une fois j'ai un élève qui priait beaucoup à Hachem, qui voulait le voir en rêve. Dévoile-toi à moi en rêve. Puis une nuit, il est arrivé qu'Hachem allait se dévoiler. Et Hachem, il sent qu'à un moment, il va se rapprocher tout. Il s'est levé en hurlant.
C'était un vrai truc, c'était son imagination.
Il n'a pas vu Hachem. Mais il a senti que ça allait arriver, il s'est réveillé en hurlant. En hurlant. Je veux bien croire. Les prophètes, quand Hachem leur parlait, le seul qui pouvait rester normal et parler, c'était Moshe Rabbeinu. Tous les autres prophètes, pas les grands prophètes, Eshayahu, Yirmiyahu, Elisha, tous tombaient par terre. C'est pris de tremblement, comme un type épileptique. On est il parlait comme ça et les appareils sortaient.
C'était peur,
ça. Hein? Tu crois que c'est facile qu'Hachem te parle? Tof. À l'évêque, avec tout ça, on arrive à prier. L'Amida, un peu avec plus de Kavana. On n'a pas le droit de tenir une chose durant l'Amida, quand on fait la prière, quand on fait l'Amida, une chose qui nous... ça nous dérangerait qu'elle tombe par terre. Parce qu'on n'est pas... notre esprit n'est pas libéré pour prier à Hachem, vu qu'on est sans cesse troublé par la peur que ça tombe. Les tefillin, ton portable... la seule chose qu'on a autorisée, c'est un sidour. Et ça parce que des fois, il n'y a pas le choix. Mais une chose qui n'est pas nécessaire pour la prière elle-même, on ne pourrait pas. De même, on devra faire en sorte de prier à un endroit où il n'y a pas de choses qui dérangent notre intention. Donc si il y a du bruit, il y a des petits enfants qui courent, je ne sais pas moi, il faut essayer de trouver toujours l'endroit le plus calme où on pourra bien se concentrer. Si le sidour tombe pendant la prière, normalement il faut laisser par terre. Pas de problème, quand tu es dans l'Amida, tu laisses par terre. Ah, c'est Kadosh, et des noms de Dieu dedans. Il faut comprendre que les sidourim qui sont imprimés sont beaucoup moins saints que les livres à l'époque qui étaient écrits à la main. Quand on écrit Yud Kevavke à la main sur une feuille ou un parchemin, ça a de la sainteté. Quand c'est imprimé, ça a beaucoup moins. Donc entre maintenant quitter ta parole que tu as en face du roi pour baisser maintenant, prendre le sidour, mieux vaut rester droit et continuer à prier. Mais si d'habitude c'est le cas, t'es embêté. Moi je sais que si j'ai le sidour qui est tombé par terre, je ne peux pas prier tranquille. Je suis embêté chaque seconde. Alors tu peux te baisser, ramasser le sidour et continuer à prier. L'essentiel étant toujours avoir une grande kavana dans la prière.
C'est un problème de remettre son talit.
S'il est tombé, idem aussi.
Il y a un seul côté qui tombe des fois comme ça.
Ça n'a pas de problème. C'est bien de le remettre parce que s'il tombe complètement, c'est un problème si on doit faire la bracha. C'est un problème si on peut. S'il tombe, est-ce qu'on doit faire la bracha ou non? C'est un safek. Pour ne pas tomber dans ce safek là, hein, mieux vaut le remettre le talit, il n'y a aucun problème. D'accord.
C'est
pas pendant qu'on fait la mina. Non, si par là pendant quelqu'un était aux toilettes ou le talit est tombé. S'il est tombé, je crois même qu'il doit refaire la bracha.
S'il tombe seul, il doit faire la bracha.
Il doit faire la bracha. C'est vrai. C'est embêtant. D'accord. Donc mieux vaut, il n'y a aucun problème à remettre le talit comme il faut bien. Tous les autres choses, si on peut éviter, c'est marqué avant la prière, il faut enlever kio venio, tout ce que tu as dans la gorge, tout ce que tu as dans le nez, d'accord, pas au milieu de la prière, enlever tout ce qu'il y a, tout ce qui peut te déranger, comme ça, comme dans un discours. Tu vas maintenant, tu rentres maintenant dans un rendez-vous avec le directeur pour faire embaucher. Ça fait 8 ans que tu cherches du travail, et là, enfin, c'est la place numéro 1 que tu rêves depuis que tu es né, d'accord ? Tu te prépares, idem aussi, d'accord ? Donc, avant la prière, et aussi, c'est sur la peine d'arriver un peu avant la prière. Même quand on est en train, ou bien on fait Ashrei, ou quand on fait Tilot, laquelle est Lyon, on se lève, d'accord, être un peu avant le Shaar Tzibour, afin d'avoir du temps pour se préparer. D'abord, penser toutes choses qu'on doit penser, la petitesse de l'homme, la grandeur d'Hachem, que je vais maintenant prier devant celui qui m'a créé. Penser direction Israël, Jérusalem, le Temple, le Saint des Saints, enlever toutes les choses qui nous dérangent, gratter ce qu'il faut gratter, etc. D'accord. On n'aura pas le droit durant la prière, on n'a pas le droit de bâiller, on n'a pas le droit de roter. Donc, si possible, roter et bâiller avant. Si ça arrive durant la prière qu'on doit bâiller ou roter, on le fera très discrètement. Et en mettant quelque chose devant la bouche, d'accord ? On ne peut pas bâiller comme ça devant Hachem. Tu mets ta main, même si tu es seul. Et surtout, pas continuer à prier. Bah, oh, Hachem, d'accord ? Chas Shalom, d'accord ? Tu arrêtes de prier, tu bâilles et tu continues. Cracher, il faut essayer d'éviter de cracher durant la Amida. Si tu peux pas, t'as un crachat qui t'arrive, alors pas cracher par terre, comme c'est autorisé dans le Shulchan Aruch, c'est permis, mais aujourd'hui, tout le monde a écrit qu'on peut pas cracher dans nos synagogues aujourd'hui. Tu craches dans un mouchoir, tu craches dans quelque chose que tu prépareras. Maintenant, avant le crachat et après le crachat, il faut attendre le temps de marcher 4 pas. Ouais, environ 2 secondes, d'accord ? Magan Abraham. C'est interdit de faire une chose pareille, carrément interdit. Donc attention à ne pas manquer de respect par ces choses-là. À Hachem Agadol, au grand nom d'Hachem vers qui on prie.
Se
gratter aussi, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais c'est mieux de faire ça tout ça avant.
Pour éternuer.
Éternuer, c'est bon signe. Il ne faut pas éternuer exprès, d'accord. Je dis, avant la prière, il faut se libérer le nez, etc. Maintenant, tu pries et tu as éternué, alors c'est bon signe. Si tu as eu un gaz, c'est interdit d'avoir un gaz, une flatulence, pendant la Amida, même sans tefilin, c'est interdit. Si jamais c'est arrivé, il paraît que c'est un mauvais signe. Quand tu as de l'air qui sort en haut, donc éternuer, c'est bon signe. C'est-à-dire que de même, ça t'allège, parce que dans le ciel, on a allégé ton din et on a reçu ta prière. C'est un très bon signe. Par contre, faire une flatulence, c'est un mauvais signe. S'il y a des enfants qui nous dérangent, ou quelqu'un qui a un portable allumé, d'accord, ça te dérange, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de faire ni, par exemple, nous, comme ça, c'est parler durant l'amida. Mais tu peux faire sans parler, ça va. Vu que tu n'as rien prononcé, c'est qu'un son intérieur, c'est permis. On ne priera pas devant un miroir, même si on ferme les yeux, parce que les gens qui te voient quelque sorte te prosterner devant toi-même. Abba Shaul écrit qu'on peut, devant une vitre la nuit, même si ça se reflète, c'est pas aussi grave que le miroir. De même, s'il y a des photos devant nous, des photos d'animaux, d'hommes, encore c'est plus grave, mais même d'animaux, d'arbres, de quoi que ce soit, tant que c'est, si possible, c'est mieux qu'il n'y en ait pas du tout, parce que ça dérange la concentration, on en regarde des arbres, on regarde des animaux quand on est en train de prier. Mais c'est permis de prier devant cela tant que c'est sans relief, plat. Si sans relief, c'est un problème et il faut éviter. Donc on ira de côté, on priera de côté. On ne prie pas en maillot de corps ou en bermuda ou en tong ou en crocs. Laura parle ici des habits qu'il portait à l'époque. On doit s'habiller à la prière comme on s'habille devant quelqu'un de grand qu'on va visiter. Comme je dis, tu as maintenant un interview pour une offre d'embauche, ou tu vas maintenant à une bar mitzvah. Quelque chose qui est honorable, il faut s'habiller comme ça. Et le Rabbi écrit que les Talmid Chachamim, eux, s'habillent avec l'habit avec lequel ils sortent de l'extérieur. Pas un manteau quand il fait froid, mais la veste. C'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui prie sans veste, c'est permis. Mais c'est pas bien. Il dit que même les gens simples doivent s'habiller comme un Talmid Chacham, c'est-à-dire mettre une veste, et aujourd'hui ce sera le chapeau. D'accord ? Il lui dit qu'on ne peut pas prier qu'avec la kippa, il faut mettre le fesse, ce qu'ils avaient à l'époque. C'était le tarbouche, comme il y a la photo ici du Rav. D'accord ? Ou bien ils avaient le. Oui, le truc rouge que portaient les, ici dans nos pieds ottomans. D'accord ? Ça, c'est, normalement, on doit prier comme ça, pas qu'avec la kippa. Aujourd'hui, ça sera, ce qui a l'équivalent, ça sera le chapeau Borsalino, à portée de Naples. Je ne sais pas pourquoi Borsalino a eu tellement de succès. D'accord ? C'est ça la mode des Bnei Torah. Si quelqu'un peut s'habiller comme ça, c'est préférable. Quoi qu'il en soit, le minimum, c'est comme on va devant une personne importante. Dans le livre ici, il parle de parler avec, de prier alors qu'on a un portable. Il dit non seulement quand ça fait du bruit, ça dérange tout le monde, même quand tu mets sur vibreur, c'est clair que ça rentre dans le cadre des choses qui troublent ton esprit. Si on ne peut pas prier en tenant une chose, de peur que ça trouble notre esprit, à plus forte raison avec un portable qui peut sonner chaque seconde et qu'on va regarder au milieu de la mida, on va qu'est-ce qui se passe, oui, non, etc. On l'éteint, on l'allume. C'est clair que c'est tout à fait opposé au minimum de respect qu'on a par rapport à Hachem et par rapport aux autres fidèles de la prière, la synagogue qui veulent prier tranquillement. Manger et boire avant la prière. Le Rav ici interdit ni manger ni boire, ni même de l'eau. La halakha, on peut être mekel plus. Rav Nissan autorise tout ce qui est eau. Eau, ça veut dire eau colorée thé, eau colorée café, sans sucre.
Coca, on ne peut pas boire.
Coca, non, ça contient du sucre. Jus de fruits, non plus. On peut mettre de la sucrète. Parce que c'est que du goût de sucre, mais ce n'est pas la nourriture.
La sucrète.
Sucrète. Ouais. Mais le sucre, c'est déjà de la nourriture. C'est quelque chose d'énergétique. D'accord ? On va dire, Yosef est encore plus mekel. Il dit, même du sucre, c'est permis. Même du lait dans le café. Que, en quelque sorte, c'est déjà de la nourriture. Il dit, non, c'est du café. D'accord ? C'est battel, c'est annulé dans le café. Donc chacun fera d'après son rave. Certainement pas faire des grands repas comme certaines communautés qui font des grands repas avant la prière, c'est totalement interdit. Chabad, Shulchan Aruch Harav, il écrit qu'il est absolument interdit de manger avant la prière, qu'une personne qui a des problèmes de concentration, elle ne pourra pas se concentrer, elle est faible, si elle ne peut pas manger quelque chose avant, alors elle peut. D'accord ? Et ça, on est d'accord, quelqu'un qui ne peut pas se concentrer, il est trop faible, c'est une vieille personne, etc. Et pour pouvoir prier avec intention, il est nécessaire qu'il mange quelque chose, c'est permis. Mais sinon, c'est grave, il y en a même qui pourraient dire que c'est de Horaïta. Il y en a qui disent l'autre tochlou à la dame. Pas le droit de manger avant la prière, il y en a qui disent que c'est de Horaïta d'après certains avis. En tout cas, dans Gemara Brachot, c'est marqué, c'est un signe d'orgueil. Tu as jeté Dieu derrière ton dos. D'abord, tu penses à manger, après tu t'occupes de moi.
Ça fait le Barakat HaShachar, c'est pas comme si on avait jeté Dieu.
Le Barakat HaShachar, c'est pour la prière.
Si c'est pour supporter mieux, alors un thé au miel ou un truc comme ça pour la gorge.
Si c'est pour des questions de santé, c'est permis. Un médicament, etc., tu peux. Mais si c'est pour. Parce que t'as faim, c'est tout. D'accord ? T'es gâté, tu veux pas. Voilà. Ça va pas. C'est vrai que je déplore à cette occasion les minyanimes, très souvent. Bon, ça commence maintenant à. Ça commence un peu à changer. Mais un temps, c'était impossible de prier en France Shabbat. La prière commence à 9h, 9h30. Elle finit après Chatzot. Elle dure 3h30. Sincèrement, il y a de quoi. D'accord, je ne comprends pas les filles. Il faut être courageux. Une endurance, d'accord, c'est terrible. Ici en Israël, le minyan le plus tardif dans mon quartier, le plus tardif finit à 10h, le plus tard. Une prière Shabbat doit durer 2h15, grand max. Ça, c'est avec le discours, avec le tout ce que tu veux.
Si on se réveille à 8h30, 9h, on va prier tout seul.
Alors, il faut faire. Aujourd'hui, ça commence à disparaître. Au Hachem, il y a des petits minyanimes de jeunes qui en ont marre de prier à l'ancienne 3h. Ils font un minyan de jeunes, de 7h30 à 9h30, et terminé, voilà, très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, tu peux aller manger après. Mais je comprends, si tu finis à 1h30, en plus, c'est un problème de jeûne. Si jamais tu as dépassé Chatzot, tu es en jeûne Shabbat, c'est interdit. Le repas de Shabbat matin doit être Shabbat matin. Maran écrit Soudat Shachrit, le repas du matin. Il faut manger Kabetza avant Chatzot.
Sérieux?
Entre
ne pas manger avant Matila ou ne pas jeûner Shabbat, on choisit quoi? Si qu'on est en annonce, qu'on n'a pas le choix.
En ce moment, Rav, on n'a pas trop de problème.
Parce que
Chatzot, c'est tard.
En hiver. En hiver, c'est encore tôt. Entre jeûner, moi je crois que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le kiddush après Shachrit avant Moussaf. C'est le soma Yaman Damar, comme ça un peu. C'est le moins tordu. C'est le moins tordu.